Journal de Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. Faut-il faire le ménage dans l'immense catalogue du compte personnel de formation? Certains apprentissages n'ont rien à faire dans le CPF. Les syndicats ont leur avis sur la question. Ils ont des propositions à faire au gouvernement. Le procès des meurtriers présumés de Mireille Knoll. Début d'interrogatoire des deux hommes accusés du meurtre. La Cour s'est intéressée hier à leur enfance et à leur personnalité. Refusée en première instance, la demande d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis est examiné en appel à Londres. Un enfant sur deux ne sait pas nager à l'entrée en sixième, opération comme un poisson dans l'eau organisée par le Secours Populaire.
Invité d'Alexandra Ben Saïd dans 20 minutes à 7h50. Aujourd'hui, la porte-parole de Lutte Ouvrière, candidate à l'élection présidentielle, Nathalie Arthaud.
France Inter.
Le compte personnel de formation, le CPF, un instrument de réussite professionnelle qui est censé valoriser un CV. Mais ça n'est pas toujours le cas.
Car il ne sert pas qu'à financer des formations traditionnelles, cours de langue, bilan de compétences ou informatique. Si vous aimez les pizzas, apprenez les gestes du pizzaïolo grâce au CPF. La Chine vous passionne. Et si vous appreniez le mandarin sous hypnose, c'est possible avec le CPF. Or, et c'est la Loïc, on trouve à boire et à manger dans les formations proposées par le CPF. Selon les syndicats, un grand ménage s'impose dans le catalogue. Fabien Cazot.
L'application Mon CPF a bel et bien permis de démocratiser l'accès à la formation, se réjouit-on au ministère du Travail, mais l'offre est devenue tellement pléthorique que pointe le président de la CFE-CGC François Omeril, et pas toujours pertinente.
Il y a une multitude d'opérateurs sur le marché, des organismes de formation qui pour certains se sont créés pour l'occasion et qui proposent des formations qui font en fait du remplissage, ils font du démarchage auprès des gens. Tout le monde reçoit des messages, vous avez de l'argent sur votre CPF, il faut le consommer, etc. Donc on est vraiment dans une démarche commerciale de marketing qui met totalement à distance la question de la montée en compétences qui est centrale normalement sur le sujet de la formation.
La montée en compétences, c'est bien là que le bât blesse, renchérit Michel Boga pour Force Ouvrière. Certaines formations, utiles par ailleurs, n'ont selon lui rien à faire dans le compte de formation.
Le plus flagrant, c'est l'utilisation du CPF pour passer son permis de conduire. Soit le permis de conduire peut aider à trouver un emploi, mais c'est pas le but normalement du compte personnel de formation qui doit en fait profiter aux salariés pour que celui-ci puisse monter en qualification.
Le gouvernement réunira demain les partenaires sociaux pour entendre leurs propositions à l'occasion du deuxième anniversaire de l'appli Mon CPF.
Fabien Cazot. Une addiction à l'alcool pour l'un, au crack pour l'autre, des enfances compliquées, un chapelet de condamnation. La Cour d'assises de Paris s'est penché hier sur le profil des deux accusés du meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll, cette octogénaire juive tuée chez elle de 11 coups de couteau. Les deux accusés se rejettent la responsabilité du crime. Ils continuent de nier. Compte rendu d'audience avec Mathilde Vinceneux.
Le premier à prendre la parole, c'est Yassine Mioub, la trentaine. Avec sa voix assurée, il ne reconnaît pas le meurtre, mais l'incendie, oui. J'ai prêté mon briquet, assure de son côté Alex Karim Bacchus, le deuxième accusé, 25 ans. Lui aussi nie avoir poignardé la victime. Quand le président les interroge sur leur parcours, leurs multiples passages en prison, les deux hommes racontent une vie marquée par la violence. Yassine Mioub se souvient d'un père absent qui mettait des patates, d'un viol subi à 12 ans. Il raconte ses excès de colère et son alcoolisme. Alex Karim Bacchus, lui, décrit une enfance chaotique. Il est placé à l'âge de 8 ans, interné plusieurs fois en hôpital psychiatrique. Les deux hommes se sont connus en détention. Ils se sont recroisés par hasard avant de se retrouver le jour du drame. Mireille Knoll était mon amie, ma confidente, assure Yassine Mioub pour sa défense. Il est le fils d'une voisine. Alex Karim Bacchus, lui, s'est scarifié en prison pour écrire le mot innocent sur ses cuisses et sur ses bras.
Mathilde Vinceneux. L'inceste et les violences sexuelles sur les enfants, 10 mois après sa création, la commission lancée au début de l'année par Emmanuel Macron rend ses premières recommandations pour mieux protéger les victimes et pour lutter contre l'impunité des agresseurs. 5000 témoignages. La Civise demande entre autres, de prévoir la suspension d'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi. Des soirées étudiantes grenobloises visées par une enquête. La drogue du violeur aurait circulé pendant plusieurs soirées à l'école de management de Grenoble. C'est la direction de l'école qui a signalé au procureur les soupçons d'utilisation du GHB, cette substance sédative qui enlève toute mémoire de la soirée écoulée. Une enquête préliminaire est ouverte et les fêtes de l'école interdites pour le moment.
Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, Netflix revient une nouvelle fois devant la justice britannique.
En première instance, le juge avait débouté les États-Unis de la demande d'extradition, mais l'administration américaine a fait appel de cette décision. Assange risque la prison à vie aux USA. C'est cet appel qui est examiné pendant deux jours à partir de ce matin, Richard Place.
Affaibli, avec des pensées suicidaires selon des médecins, victime de torture psychologique. D'après des experts, Julian Assange va mal. C'est ce qui avait motivé la première décision de justice, refusant de l'envoyer vers les États-Unis. Le juge a pensé qu'il risquait de mettre fin à ses jours en cas d'extradition. Aujourd'hui, c'est le principal argument qu'utilisera sa défense face à une administration américaine toujours déterminée. L'élection de Joe Biden n'a rien changé. Maître Antoine V a rencontré Assange en prison il y a moins d'un mois. Avec son avocat français, le fondateur de Wikileaks a évoqué une nouvelle fois le soutien qu'il aimerait recevoir de la France.
C'est quelqu'un qui a démontré que, par exemple, les services de renseignement français étaient espionnés par les États-Unis, les chefs d'État français étaient espionnés par les États-Unis. Il se désole un peu de voir que les Français et les pouvoirs français ne le soutiennent pas davantage dans ce qu'il estime être une juste cause, à savoir avoir donné des informations vraies sur des pratiques illégales commises par les États-Unis. Également contre ses prétendus alliés, dont la France.
Après 7 années passées reclus à l'ambassade britannique d'Équateur, Julian Assange a été arrêté il y a 2 ans et demi. Bientôt 10 ans qu'il n'est plus libre de ses mouvements. Londres, Richard Place, France Inter.
La malnutrition aiguë, c'est-à-dire le stade avant la famine, menace plus de la moitié de la population afghane. C'est un constat terrible dressé par le Programme alimentaire mondial et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La communauté internationale a suspendu ses financements depuis le retour des talibans au pouvoir. Conséquence, le pays est plongé dans l'une des pires crises humanitaires. Valérie Crova.
Des familles contraintes de vendre leurs filles mineures en vue de les marier pour survivre. Ce qui paraît impensable n'est plus exceptionnel aujourd'hui dans certaines provinces d'Afghanistan, ravagées par la pauvreté. À défaut de prendre des mesures d'urgence, des millions d'Afghans, en particulier des enfants, risquent de mourir de faim, prévient l'ONU. Or, les agences onusiennes disent n'avoir reçu que le tiers des fonds dont elles ont besoin pour distribuer l'aide humanitaire sur place. Thomas Nobre est chargé des programmes d'action contre la faim en Afghanistan.
Il y a un attentisme de voir comment la situation va évoluer et c'est vrai que c'est un temps qui n'est pas disponible en ce moment. Vu la situation humanitaire, vu les besoins, c'est un temps qu'on ne peut pas se permettre de prendre parce que l'hiver approche, il y a énormément de zones en Afghanistan qui vont devenir difficilement accessibles pendant l'hiver et qui peuvent avoir des conséquences dramatiques si l'attente se fait pendant trop longtemps.
Les considérations politiques ne doivent pas entraver la distribution d'une aide vitale pour des millions d'Afghans, plaident les ONG engagées depuis plusieurs décennies en Afghanistan. Elles appellent au déblocage des aides gelées par la communauté internationale qui a promis plusieurs centaines de millions de dollars en faveur de la population afghane, mais veut éviter à tout prix de passer par le gouvernement des talibans en l'absence d'une reconnaissance internationale.
Valérie Crova. Au Soudan, le Premier ministre a retrouvé son domicile. Il a été ramené chez lui hier soir. Il reste sous surveillance renforcée au lendemain d'un coup d'État mené par le chef de l'armée, contesté par les manifestants qui ont de nouveau essuyé des tirs de grenades lacrymogènes.
En France, à l'entrée en 6e, 1 enfant sur 2 ne sait pas nager. Ils peuvent apprendre grâce au Secours Populaire.
Toute cette semaine, l'association propose à 800 enfants défavorisés de découvrir gratuitement les joies de la natation. Opération Comme un poisson dans l'eau, 8e édition. C'est un stage d'une semaine à raison de 2 heures de piscine par jour. Reportage de Sébastien Sabiron à la piscine Yvonne Godard dans le 20e arrondissement de Paris.
Maintenant, on essaye de faire des bulles.
Jusqu'ici, tout va bien pour la quinzaine d'enfants qui barbotent. Jihad, 7 ans, maîtrise les bulles et même bien plus.
Je sais nager dans l'eau profonde, sans bouée de sauvetage et sans frites.
Pour Amine, 10 ans, bonnet de bain vissé sur le front, l'objectif c'est de mieux savoir nager avant l'été prochain.
Comme ça, quand on y va à la mer, on n'a pas à se noyer dans la mer, rester sur le bord à attendre juste en train de patauger.
Pour une bonne partie d'entre eux, la natation reste une activité rare et peu accessible.
Peut-être 2 fois par an, j'y vais.
Ryan, 14 ans.
Et grâce à son stage de piscine, je peux aller pendant une semaine entière. Dès que j'y suis, j'étais trop content, monsieur. C'est comme si je renaissais, vous voyez.
Pour les familles, le principal frein est économique, mais pas seulement. Christian Lampin, secrétaire national du Secours Populaire.
Il y a des freins culturels parfois. Vous savez, si les parents savent pas nager ou ont peur de l'eau, eh bien, ils vont pas amener leurs enfants à la piscine. Mais voilà, aujourd'hui, effectivement, si on tombe dans l'eau et qu'on ne sait pas nager, le risque, c'est la noyade.
Un risque accru par la pandémie, car pendant des mois, de nombreuses piscines n'étaient accessibles que sur ordonnance médicale. Pierre Rabadan, adjoint chargé des sports à la mairie de Paris.
Les enfants, notamment, pendant une large période, dans le cadre scolaire, n'ont pas pu accéder aux piscines Ce genre de dispositif, ça permet à 3000 enfants justement d'être capables d'éviter de se noyer avant même d'apprendre à nager.
L'été dernier, en France, 31 enfants sont morts noyés.
Sébastien Sabiron, si je vous dis paresseux géant et préhistoire, vous pensez peut-être à Sid dans l'âge de glace. Eh bien, on va sans doute en savoir davantage sur cet animal grand comme un ours quand il est dressé sur ses pattes, car le squelette fossilisé d'un paresseux géant a été découvert en Guyane, près du Maroni, à la frontière avec le Suriname. L'espèce s'est éteinte il y a 12 000 ans. C'est la première fois qu'une telle découverte arrive en France. Les restes de ce mammifère sont en cours d'étude à Montpellier. Et évidemment, Sophie Bécherel, les paléontologues enthousiastes, vont reconstituer l'environnement de l'époque.
L'orpaillage clandestin n'a aucune vertu, sauf parfois la découverte fortuite et exceptionnelle d'os fossilisés de paresseux géants. En pleine jungle amazonienne, ce sont en effet des garimpeiros, des chercheurs d'or, qui ont découvert ces restes de plus de 12 000 ans. Vertèbres, mâchoires, dents, ce trésor du passé, ils l'ont confié aux agents du parc amazonien, lesquels ont alerté les archéologues. Pierre-Olivier Antoine, paléontologue à l'université Montpellier II, a alors monté une expédition, il en revient.
C'était un paresseux pratiquement avec l'allure d'un ours. Il vivait sur terre, était terrestre, et il pesait à peu près 3 tonnes. C'est parmi les plus gros animaux qui ont vécu en Amérique, avec certains cousins des éléphants.
La découverte est exceptionnelle, car les paléontologues n'avaient jusqu'ici aucun fossile de mégafaune en Guyane. Et ce n'est pas faute d'avoir cherché, mais la forêt équatoriale ne favorise pas la conservation des restes animaux.
Les sols sont extrêmement acides, et le climat lui-même est très agressif, ce qui empêche quasiment, à tous les coups, la préservation des restes d'organismes qui se retrouvent enfouis.
Désormais, les scientifiques savent où et comment chercher d'autres restes fossiles. Ils sont a priori conservés dans des couches d'argile à 4 mètres de profondeur. Ils espèrent ainsi tomber sur des singes, des rongeurs, des caïmans, des poissons et bien sûr toute la flore associée à une époque où la Guyane avait plus désert de savane que de forêt équatoriale.
Sophie Bécherel.
3 tonnes pour le paresseux géant, vous savez donc tout sur cet animal. Merci à vous, Laurence Thomas. Rien à voir dans une minute, l'édito politique.